Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous, oui.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir un voyageur. Bonjour Oscar.
Bonjour.
Oscar Merle, qui va nous parler d'un livre dont il est l'auteur et qui s'intitule « Les vertiges du voyage ». 180 pages, un beau récit qui nous fait quitter la Bresse ou n'importe quoi de France. Et nous franchissons les océans, nous volons surtout en Amérique du Sud. C'est bien
c'est
ça ?
C'est l'Amérique du Sud. Oui.
Tout à fait.
C'est un road trip en Amérique du Sud.
C'est un road trip, c'est oui. Même plus qu'un road trip, c'est vraiment 9 mois passés en Amérique du Sud.
Vous êtes vraiment entré dans l'Amérique du Sud profonde ?
Alors profonde, oui et
ah
non.
Ah si, par certains moments, oui.
Oui. On peut dire ça comme ça, oui. Parce que profonde géographiquement, mais aussi profonde dans les coutumes, dans les rencontres,
oui,
dans l'expérience même, en fait. Oui.
Ça vous a beaucoup apporté.
Tout à fait, énormément.
Mais c'est vraiment des pays qui sont fabuleux quand même.
C'est des pays fabuleux, c'est surtout des pays qui sont fondamentalement différents
tout à fait, des nôtres.
De ce qu'on connaît en fait.
Ah ouais.
Et de l'Europe en général. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé moi ma volonté de.
Parce que vous
là-bas.
Avez eu toujours envie d'aller là-bas ?
Et non, pas toujours, mais en fait, je voulais faire cette année de césure, donc qui est une année de pause, entre guillemets.
Oui, alors vous allez nous expliquer tout ça, vous allez nous dire ce que vous faites, et puis pourquoi cette année de césure, alors allez-y.
Alors moi, je suis étudiant en école d'architecture à Montpellier, et cette école-là en particulier propose une année, donc entre la licence et le master, donc entre la troisième et la quatrième année. Et cette année-là, en fait, durant cette année-là, on peut effectuer des stages et on peut partir à l'étranger si on le souhaite. Et donc j'ai décidé de l'effectuer parce que c'était un moment.
Qu'on appelle l'année de césure.
C'est ça. C'est une année. C'est pas une année sabbatique parce qu'on est censé quand même.
Il
faut travailler
quand même.
Juste pour voyager, mais en tout cas, voilà. Et donc j'ai ressenti le besoin un peu de prendre cette année-là. C'était là pour moi, pour souffler un peu, parce que c'est quand même des études qui sont assez prenantes. Mmh. Et voilà, et puis après, je me suis posé beaucoup de questions sur où partir, pourquoi. Et puis c'est vrai qu'en fait, l'Amérique du Sud, c'est venu un peu tard, mais c'est venu parce que c'est vraiment, au final, une culture, la culture que je connaissais
le moins. Quel a été le déclic ? Parce que je pense qu'à un moment, vous deviez hésiter entre les États-Unis, l'Asie ou je ne sais pas.
Exactement.
Donc pourquoi l'Amérique ? Comment c'est venu l'Amérique du Sud ?
Comment c'est venu ? Alors c'est tout bête, hein, mais c'est juste que moi à l'époque ma copine partait aussi en Argentine pour faire une année d'Erasmus.
Ah oui, d'accord.
Et elle partie en Argentine et donc ça a
motivé.
On sent
que vous la rencontrez de temps en temps dans le livre.
Exactement.
Oui.
Et donc ça a forcément un peu motivé mon choix.
Le choix. Voilà. D'accord.
Et donc j'ai fait une petite recherche et puis le Chili c'est un pays qui m'attirait beaucoup. Mmh. Et puis en fait moi j'avais déjà l'idée de faire un travail au sein d'une association et j'ai trouvé une association qui s'appelait Techo dont je parle dans le livre. Mmh. Et j'ai vu qu'elle était basée dans une ville au Chili donc qui s'appelle Valparaiso.
Mmh.
Et donc
Valparaiso,
ça a été
oui.
le début de
le Rien début que de... le nom Valparaiso de... c'est exotique quand même parce
Tout
que entre les livres et puis les films on a beaucoup parlé de Valparaiso, c'est quand même. Alors est-ce qu'elle est vraiment aussi mythique?
Elle est totalement incroyable. C'est une ville qui est un peu hors du temps dans l'ambiance qu'elle propose, dans le paysage. C'est vraiment une ville, une ville vraiment à part. J'ai jamais vu ça et je pense que je le reverrai jamais, sauf si j'y retourne.
Avec son funiculaire qui monte très haut, avec ses maisons colorées, c'est tout à fait ça.
C'est une ville très très poétique. Et moi, c'est vrai que être dans une ville comme ça, ça aide forcément à écrire.
Plus que Santiago, qui est la capitale. Santiago, c'est la capitale.
Oui, beaucoup plus que Santiago, parce que Santiago, voilà, comme vous l'avez dit, c'est une capitale. Et donc une capitale, dans l'ambiance, dans les mouvements, dans les flux de personnes, de voitures et tout, c'est des choses qu'on a plus l'habitude de voir, même si la culture est
en Europe, c'est ça. Alors que là-bas,
Valparaiso, c'est vraiment une ville, hors du temps, et c'est des temporalités qui sont différentes et. Et les gens prennent le temps et la ville, comme vous l'avez dit, avec les funiculaires, les multiples collines avec des ambiances différentes, la mer, l'océan, évidemment. C'est vraiment un endroit très poétique qui inspire beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup inspiré en tout cas.
C'est bien. Bon, alors vous êtes passé à Valparaiso et après, qu'est-ce que vous avez fait au Chili?
Alors, donc Valparaiso, donc, où je suis resté dans cette association
alors,
qui s'appelle
Techo. Alors, on dit Valparaiso?
Valparaiso.
Ah, Valparaiso.
C'est ça, avec l'accent. Si c'est
est-ce que ça a un sens en français?
Alors, c'est la. C'est, Paraíso, c'est le paradis.
Voilà, c'est
ah,
ça.
Oui.
C'est la ville du paradis.
Et c'est la ville du paradis, exactement.
Ouh, alors, tout va bien.
Exactement.
Donc, vous étiez
ça
un peu au paradis.
Bien, ça colle plutôt
est-ce
bien.
Est-ce que vous y resteriez?
Ou vous y retourneriez surtout
avec pour plaisir. Y vivre, attention.
Pour y vivre, je sais pas.
Attention.
Parce que moi, je suis quand même très amoureux de déjà de ma région et de,
et
de
oui.
mon pays.
C'est un vrai. De la Bresse.
Tout à fait.
Ah, et oui.
Et oui. En fait, c'est, et quand on part dans des pays comme ça, même si on aime beaucoup ce qu'on y voit, on se rend toujours compte aussi de ce qu'on a chez nous.
Oui, mais ça nous apporte beaucoup quand même. Voilà,
exactement,
ça, c'est
exactement.
Voilà.
Et pour y vivre, je sais pas. Mais en tout cas, j'y retournerai ouais. volontiers.
C'est oui, bien. Mais parce que vous êtes d'où en fait. Oui, parce qu'on est parti tout de suite.
Oui.
Alors, il faudrait peut-être qu'on sache d'où vous venez. Mais oui.
Un petit peu, ouais.
On se calme un peu, même aussi
c'est,
un peu.
C'est que moi, oui, je suis un peu. Voilà,
alors, le soleil n'est pas toujours là. On revient en Bresse.
On revient
si
en Bresse,
bien.
Voilà.
Et oui, voilà.
Très bien. Alors, moi, je viens de Châtillon-sur-Chalaronne.
Oh, c'est la Dombe.
Exactement.
C'est pas la Bresse.
Non.
Enfin, Bresse, Dombe,
bon, non,
Pays de Gex, le Bugey. Mais on revient tout près du foyer, alors.
Exactement. Ben voilà, moi, je suis né donc à Lyon, mais j'ai toujours vécu à Châtillon. Et voilà, j'ai fait mes études, mon lycée à Bourg-en-Bresse. Au lycée Lalande. Et puis après, à 17 ans, donc, je suis parti à Montpellier dans mon école d'architecture.
D'accord.
Voilà.
Donc vous préparez votre diplôme d'architecte.
Tout à fait.
Donc
que
ça,
je
ça,
finirai,
ça...
si tout se passe bien, l'année prochaine, fin d'année
d'accord.
prochaine.
C'est en combien d'années? C'est 3 ans?
C'est en 5 ans.
Il y a une licence de 3 ans,
et
ans plus
et
2 ans. D'accord.
Qui dure 2 ans, oui.
D'accord. Alors, il y a
encore une année en plus qui est une forme d'alternance en un an où on commence à travailler en agence
ah oui.
et on a quand même des comptes à rendre à l'école. Et à la fin de cette année-là, on est vraiment architecte et on peut vraiment signer nos propres plans. Et
d'accord, ouais.
Tout ça.
Ah oui.
Voilà.
C'est bien. Bon, alors.
C'est un recrutement national.
En fait, c'est une école, ouais, c'est une école supérieure nationale, en fait.
Il faut passer un concours.
Tout à fait.
D'entrée,
ouais.
Voilà, c'est
voilà,
ça.
Donc moi, à l'époque, j'avais passé beaucoup de concours à Lyon, à Montpellier, un peu partout dans la France. Et quand moi, je les avais passés, c'était des concours différents selon les écoles, en fait. Chaque école décidait de la tête que le concours avait.
C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire, par exemple, qu'à Lyon, avant même d'avoir accès au concours, ils regardaient les notes de français, ils présélectionnaient sur les notes de français.
Ah, oui.
Et puis après, venait le concours. Et après, c'est ça, venait le concours. Montpellier, c'était différent. Montpellier, on prenait sur le dossier, mais c'était beaucoup moins sélectif. Et le concours, il se déroulait sur une journée même, où on avait une conférence le matin, un écrit à rendre l'après-midi, puis un entretien. Après, par exemple, j'en ai fait un à Marseille où c'était juste un QCM qui durait 4 heures.
Ça, c'est terrible, le QCM.
Le QCM,
ah,
un point négatif, il est terrible celui-là.
Parce qu'il faut être rapide et puis
exactement.
On n'a pas le temps de penser
donc,
à tout.
Vraiment, et Grenoble, par exemple, on était dans une espèce d'une salle énorme. On était, je pense, facilement 3000 personnes au même endroit et on a dû faire un concours qui est pareil sur 4 heures avec un écrit. Un écrit rédigé et un écrit dessiné.
Ah, quand
donc
même.
C'était vraiment des concours très différents.
Ouais.
Maintenant ça a changé. Je crois que c'est pour toutes les écoles le même concours et c'est sur dossier puis sur entretien.
D'accord.
Vous
et
avez parlé du mot voilà. conférence tout à l'heure.
Ouais.
Vous assistiez à une conférence ou c'est vous qui parliez?
À Montpellier, on assistait à une conférence oui. ouais, d'une architecte.
Oui.
Sur laquelle on devait prendre des notes.
Après que vous deviez.
Exactement. Ouais.
Ah oui, c'est pas une conférence
une espèce
lambda
de...
en somme.
Non.
Bah heureusement d'ailleurs.
On avait une forme après d'écrit
à
formuler justement
ouais.
sur cette conférence-là,
ouais.
à essayer d'en tirer ce qu'on avait compris, ce qu'on avait aimé, qu'est-ce que ça éveillait chez nous. Et puis après, il y avait du coup un entretien là cette fois. Avec un jury, on présentait un peu notre parcours, nos envies, pourquoi on venait là, voilà.
Donc voilà, vous continuez vos études. Alors vous avez décidé de partir, comment on décide de partir?
Moi je l'ai fait parce que vraiment j'en avais besoin. Il y a eu une période où, et je pense que ça arrive un peu à tout le monde en architecture en tout cas, où on a un peu des doutes sur est-ce qu'on veut vraiment faire ça, c'est des études très prenantes et on n'a pas trop le temps de souffler. Et du coup, une année comme ça, c'est vraiment une année... C'est une année super intéressante pour nous parce que là, on peut vraiment
prendre du recul.
Tout à fait. Il y a des bilans déjà un peu peut-être.
Il y a des bilans et puis ça permet voilà de prendre du recul.
Interrogation.
Exactement.
Et oui.
Exactement.
Suis-je sur la bonne voie?
Tout à fait. Tout à fait.
Question.
Oui.
Je suis sur la bonne voie et c'est sûr que du coup une année comme ça, ça permet de une année comme ça où on peut faire ses propres choix.
Mais déjà quand on a passé la licence déjà on a quand même pas mal déblayé déjà.
Tout à fait. Moi on a la petite licence, le petit diplôme déjà.
Oui, c'est déjà ça.
C'est déjà ça. On l'a bloqué.
Bien.
Et puis voilà, donc c'est comme ça, moi en tout cas, que j'ai décidé de faire cette année-là. Quoi. Et puis en plus, j'avais pas forcément envie de. Moi j'avais sauté une classe, et donc j'avais pas forcément envie de finir mes études à 22 ans,
ouais,
en architecte.
Ouais.
Enfin, j'avais... Et puis c'est surtout aussi un milieu où je pense que plus on a d'expérience avant de sortir de l'école, plus on a vu des choses différentes, fait des choses différentes, expérimenté des choses.
Ça
plus,
va vous enrichir.
Plus, ah bah, plus c'est intéressant sûr, à la sortie oui. pour les gens chez qui on veut aller. Quoi. Donc.
Bon alors, et financièrement, comment, quand on part comme ça, il faut quand même prévoir.
Ah bah il y a les petits boulots d'été,
les
petits boulots d'été avant de partir, et puis les petites économies des
personnel,
années précédentes, et puis surtout oui. Mes parents qui m'ont beaucoup aidé.
Merci papa et maman.
Exactement.
Ouais.
C'est grâce à eux.
C'est bien.
Donc une année scolaire, une année civile.
C'est une année scolaire, c'est-à-dire que en fait, durant cette année, j'étais toujours inscrit à l'école et j'ai payé une année à l'école.
Ah, voilà. On paye une année, même
tout
si on n'y est pas.
Tout à fait.
Ah oui, donc
ah bah, de toute façon,
parce qu'on est, on est suivi par l'école, on a des comptes à leur rendre, on échange par mail avec
parce
eux.
Parce que même si vous faites un stage à l'étranger,
tout
par exemple, il faut payer quand même l'école.
C'est en liberté surveillée.
C'est ça, un petit peu. Dans le discours, c'est ça. En soi, on est quand même beaucoup plus libre que ce qui n'y paraît. Mais c'est sûr que, par exemple, les stages, toutes les conventions passent par l'école. Elles doivent être signées par l'école, elles doivent être contrôlées par l'école. Et bah, avant même de partir, du coup, à l'étranger, on a notre projet qu'on veut mener sur cette année-là.
Donc
qu'on doit présenter à l'école.
Vous l'avez soumis à l'école.
Et l'école valide ou non.
Et alors, comment ça s'est passé?
Et ben pareil, hein, oral, et puis on présente un espèce de projet qui doit avoir un fil conducteur tout au long de l'année. Donc les stages doivent répondre à une certaine logique, une des envies un peu globale. Et donc voilà, prix valide ou non. Alors après, c'est pareil, ça c'est dans le discours, mais généralement, si on montre qu'on est motivé et que ça nous tient à cœur, il valide sans souci.
D'accord.
Et combien d'étudiants à cette école? À l'entrée et à la sortie, il y en a combien?
Oui, parce que ça, il y a quand même du déchet en cours d'année. Enfin,
ah, beaucoup. En première année, on est à peu près 120 dans une promo.
Ah oui.
À la fin de la première année, il y a déjà au moins entre 20 personnes qui ont arrêté.
Qui sont parties, oui.
Qui arrêtent entre 20 et 30, je pense. Et là, maintenant, dans ma promo, on est à peu près, je pense, entre 70, je pense. Donc, sur 4 ans, il y a beaucoup de départs. Il y a beaucoup de redoublements ou alors des
parce
gens
que le
qui
redoublement
s'orientent
est permis quand même.
Oui, alors on peut redoubler une fois en licence, une fois en master.
D'accord.
Voilà. Et mais par contre, la césure n'est pas comptée comme un redoublement.
Ah mais non.
Voilà.
Il faut
valider cette année, mais si on la valide, elle n'est pas comptée comme
ça. Vous faites une coupure, c'est ça.
Exactement.
Quoi,
la césure, c'est la coupure, hein, c'est ça.
Voilà. Mais c'est pas l'année sabbatique.
Non.
Mais ça n'a rien à voir.
Mais on en profite toujours quand même pour voyager un petit peu.
Oui.
C'est ce que vous avez fait, c'est bien.
C'est le but aussi, s'évader.
Oui.
S'évader, découvrir ce qui nous vaut, ce qui nous vaut un bel ouvrage.
Oui, c'est ça, voilà.
Les vertiges du voyage. Alors, donc il y a deux mots importants. Il y a voyage, bien sûr, et puis il y a vertige.
Oui.
Alors d'abord, on s'arrête d'abord sur le mot voyage.
Si vous voulez, pas de souci. Alors, voyage, ben.
En dombe, on peut voyager aussi en dombe.
Bien sûr.
En restant dans sa chambre.
C'est pas le même impact.
Au bord d'un étang aussi.
On est toujours
comme
plus impacté
oiseaux,
parce
comme
qu'on
les mers,
est ce qui est loin de chez nous, c'est sûr.
Hein
c'est
mais, sûr. Et quand même, il y a... Alors, vous êtes parti comment?
Je suis parti...
À la nage, non?
Je suis parti à pied, à dos de cheval, c'était un peu long. Non.
Oui.
Ah oui.
Non, je suis parti en avion, et puis...
Combien d'heures d'avion?
Combien d'heures?
Alors, vous avez atterri où, la première fois?
Je suis allé à Francfort.
Oui.
Donc,
ah oui.
Ce qui représente 2 heures, il me semble, je crois. Ouais. Si j'ai
avec un aéroport qui est gigantesque.
Qui est absolument gigantesque. Et
quand on fait un changement d'avion, c'est terrible.
Incroyable.
Tout traversé.
Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans le même terminal entre mes deux avions.
Bien.
C'était
bien.
J'étais un peu béni.
Oui.
Mais... Et après, c'est 14 heures. 14 heures jusqu'en Argentine.
Oui.
Parce que j'ai rejoint du coup ma copine en Argentine pendant 2 semaines. Et puis après, de l'Argentine au Chili. De Buenos Aires, de Rosario, à la ville au Chili où j'étais, il y avait 1h30, 2 heures d'avion.
D'accord.
Donc c'était assez rapide. Il suffisait juste en fait de survoler la cordillère et puis on était.
La cordillère des Andes.
Voilà.
Oui.
C'est un pays très. Enfin, c'est quand même surtout un continent qui est quand même différent. C'est-à-dire qu'il y a, y a les deux océans, et puis les montagnes, la cordillère des Andes d'un côté, et puis
c'est d'une richesse incroyable.
Ah ouais.
Tant le longitude, enfin tant dans la largeur que dans la hauteur. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il y a les deux océans, il y a cette cordillère qui sépare le Chili et l'Argentine. Mmh. Et puis quand on prend de la hauteur ou quand on descend vers la Patagonie, c'est des ambiances aussi radicalement différentes. C'est moi ce que j'ai pu un peu découvrir pendant le road trip que j'ai fait en fin d'année civile. Alors je suis pas allé tout au sud, je suis pas allé en Patagonie, mais il y a les glaciers au sud, et puis il y a le désert.
Vous n'êtes pas allé jusqu'à Ushuaïa.
Jusqu'au nord.
Vous n'êtes pas allé jusqu'à Ushuaïa.
Non, il faut faire des choix.
Est-ce qu'on peut traduire pour ceux qui nous écoutent le mot road trip?
Alors road trip.
Moi j'ai compris, mais c'est pour d'autres qui ne manient pas l'anglais aussi. Il y a toutes les générations.
Oui, c'est vrai. Non,
alors c'est la route.
C'est la route.
Ça.
Et trip, c'est le voyage.
C'est le voyage, oui.
Ah oui.
Mais c'est avec ce qu'on va découvrir, c'est ça.
Road
c'est
trip.
Road trip, c'est une forme de voyage un peu avec le sac à dos.
C'est
et
ça, voilà.
Partir,
c'est
et
ça,
puis,
oui, comme Jack Kerouac. Quoi.
Exactement.
Kerouac,
voilà.
Oui. J'ai suivi Jack Kerouac, c'est super.
Road trip, voilà. Et si on le traduisait en français, on dirait comment? Il faudrait peut-être une phrase.
Road trip, on pourrait dire.
Eh oui.
Ah, c'est pas évident. Hein.
C'est pour ça que je pose la question. Je sais, les Anglais, ils ont deux mots, il y a tout et il y a rien, souvent.
Ouais, c'est vrai.
Je crois que j'avais noté.
Alors, voyage, sac au dos. Voyage de découverte, sac au dos.
Voyage à sac à dos, on pourrait dire.
Voyage, sac à dos, oui, eh oui. Oui, eh oui.
Alors, voyage d'agrément effectué sur les routes, quel que soit le moment d'arrêt.
Voilà, c'est ça. Et il faut une phrase en français.
Oui, c'est
il
ça.
Faut une phrase. C'est ça.
Alors voilà, je pense que dans le road trip...
On part sur des longues distances.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Des longues distances et puis je pense des longs temps aussi.
Des randonnées, c'est ça.
Ça évoque une certaine temporalité aussi.
Ça peut être à moto, à pied, voilà.
Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais l'élément principal, c'est la route.
Exactement.
D'où le premier mot. Mmh. Voilà, c'est utile. Mmh. En français.
C'est vrai.
Et oui, en français. C'est bien. Vous avez décollé où à Saint-Exupéry?
Oui.
Un grand aviateur aussi.
Oui.
Il a fait l'Amérique du Sud aussi.
C'est vrai.
Ah oui.
On en a parlé il n'y a pas très longtemps.
Et oui, il cherchait son ami Guillaumet qui s'était perdu. Mmh. Ah oui. Et il est né à Lyon aussi, vous savez. Saint-Exupéry, il est né à Lyon aussi.
Je ne connais pas trop sa vie, je vous avoue.
Alors, plongez.
Alors, vous allez écouter notre émission en podcast, s'il vous plaît.
C'est très utile quand on voyage. Alors, vous avez atterri où? À Valparaiso, d'abord?
Non, en premier, j'ai atterri à Buenos Aires.
À Buenos Aires,
en Argentine. Et puis de là, j'ai pris un bus pour aller à Rosario, pour rejoindre donc ma copine.
Mais vous avez visité un petit peu l'Argentine, quand même, avant?
Bien sûr. Alors, non, avant, non. C'est-à-dire que je suis vraiment resté à Rosario pendant 2 semaines, et puis après, je suis directement allé au Chili.
D'accord.
Et donc, au Chili, c'est là, donc, de Rosario, j'ai pris un avion jusqu'à Santiago.
Santiago, oui.
Et de Santiago, un bus jusqu'à Valparaiso.
D'accord.
Et donc, quand je suis arrivé à Valparaiso, je suis vraiment resté sur place pendant 3 mois, sans beaucoup bouger. J'ai découvert la région.
Quoi,
mais j'ai...
Alors, vous faisiez quoi? Oui, vous avez découvert la région, forcément,
bien sûr,
oui.
Bien sûr. Alors, moi, du coup, je travaillais dans cette association-là. Oui. C'est une association qui travaille dans les bidonvilles de la région. Et alors, elle travaille de manière différente. Elle organise des événements, elle organise... Des espèces de week-ends ou des semaines de construction avec les habitants.
Et puis elle a aussi une grosse association
ouais. qui est basée dans plusieurs pays d'Amérique du Sud.
Ah d'accord.
Et en fait elle a aussi un secteur qui travaille sur les logements, la construction de logements collectifs, en fait, de logements sociaux, mais en dur.
Ça vous intéressait, ça?
Exactement. Et ben moi c'est dans ce secteur là que j'ai travaillé.
Oui,
c'est un secteur qui s'appelle le secteur architecture.
Ouais.
Et donc moi j'ai travaillé dans ce secteur là et donc voilà, je les ai aidés un peu en termes de technique à dessiner les plans. Ça m'a permis aussi de rencontrer les habitants, d'assister à des réunions entre les gens de l'association et les habitants.
En anglais?
En espagnol.
En espagnol.
Ah,
en espagnol.
Oui.
Je pense pas qu'ils parlent beaucoup l'anglais là-bas.
Pas beaucoup, non.
Voilà, c'est
pas
pour beaucoup. Ça. C'est pour ça.
Pas beaucoup.
Et oui.
Et en espagnol.
Et
c'est un espagnol qui est même pas vraiment de l'espagnol. Le chilien, c'est très particulier. Ouais. Il parle très 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 vite.
C'est rapide, oui.
Et ils ont un accent qui est ultra prononcé et ils ont beaucoup de mots. qui n'existent pas en espagnol, en fait. Comme nous, on aurait des mots d'argot. Mmh. Eux, ils ont beaucoup de mots aussi, donc on pourrait qualifier comme d'argot, mais qui n'existent pas. Et donc, du coup, c'est des mots que j'ai pas forcément appris à l'école. Déjà que je suis parti avec mes seules petites bases de quatrième, et en espagnol. Mmh. Je suis parti avec pas un gros bagage en termes
Vous avez bien amélioré quand même là-bas.
Tout à fait. Ouais, non, c'est sûr que ça, ça forme.
C'est parfaitement bilingue maintenant.
Ça forme, et puis parfaitement, je sais pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup progressé.
C'est bien.
On n'a pas vraiment le choix, quoi. C'est...
Ah bah oui, parce qu'ils ne parlent pas une autre langue.
Non.
C'est bien.
Voilà. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec eux pendant 3 mois dans cette association-là. Et puis, en parallèle, j'ai aussi eu l'occasion, pendant ces 3 mois, d'aller à Santiago, travailler avec l'agence de Santiago aussi, donc qui est la capitale. Et donc, voilà, durant cette période-là, j'ai aussi pu visiter un peu la ville et voilà, et passer un peu de temps là-bas. Et c'est qu'après où j'ai vraiment commencé à beaucoup voyager. C'est à la fin de ce stage-là où j'ai eu des amis qui m'ont rejoint. Et puis là, on a vraiment commencé donc à monter un peu dans jusqu'au nord du Chili, par palier un peu, petit à petit, donc sur 2 semaines.
Et vous étiez combien à faire ça?
Alors, sur la première partie de mon voyage, on était donc 4. Mmh. Et puis, on est monté jusqu'au nord du Chili, donc jusqu'au désert d'Atacama. Qui est un désert qui est tout au nord.
C'est des déserts mythiques, ça.
C'est un désert mythique, qui est assez connu là-bas et qui est très touristique aussi.
Nous, on connaît rien que le nom. Moi, ça me dit bien, mais bon. Alors, c'est quand même le plus grand désert du monde, je pense.
Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble.
Mais
me
c'est
semble
pas bien loin. C'est, hein,
je pense
ouais,
qu'on
pas loin.
On en est pas très loin.
On a le sable, nous, là-bas.
C'est ça.
Et eux, qu'est-ce qu'ils ont?
Du sable.
Du sable aussi.
Du sable et des canyons. Et des déserts de sel.
Et des lagons.
Et des lagons.
Il y a
énormément de paysages différents. C'est vraiment incroyable.
Ouais.
C'est incroyable. Et donc voilà, j'en ai resté un peu de temps dans le nord. Et puis,
est-ce que vous avez pris des photos?
Énormément. J'adore j'aime beaucoup prendre des photos.
Parce que là,
j'adore
la photo. Fabuleux quand même. Il doit y avoir des différences de ton dans ce désert de sable.
Oui,
ça doit être incroyable.
C'est surprenant.
Parce que quand on voit des photos, on voit par exemple des lagons avec un bleu. Ah, mais c'est incroyable.
Ah, mais on découvre vraiment des bleus qu'on a.
Ah oui.
Ils
viennent de l'inventer.
Ils viennent de sortir.
C'est
incroyable, vraiment. Oui. Et puis même, chaque jour ou chaque semaine, on est un peu plus surpris par des paysages qu'on voit et qu'on s'attendait pas du tout à voir, en fait. Sur une même région, sur un même territoire, c'est d'une diversité incroyable. Et c'est ça aussi qui alimente cette expérience incroyable qui est le voyage et d'où le vertige.
Oui, c'est bien.
Et dans quel sens vertige? Vous avez peur de tomber?
Alors non, moi le vertige c'était plus sur l'avant départ, les peurs, les doutes que ça représente de partir un an.
Alors les peurs, pourquoi?
L'inconnu, partir à l'inconnu.
Je sais. Partir tout seul aussi.
Ah, vous étiez tout seul?
Oui.
Pas en groupe?
Oui, non. Je suis parti tout seul.
Ah. Eh oui, forcément.
Et pendant 9 mois, alors c'est 9 mois, c'est pas grand-chose, mais à la fois c'est énorme quand on l'a jamais fait.
Faut une bonne santé.
Puis il y a plein de choses à mettre en place avant de partir, à réfléchir. Et puis c'est aussi beaucoup de pression d'essayer de s'organiser un peu en avance. On sait qu'une fois là-bas, on n'aura plus trop de contacts possibles. Enfin, des contacts aussi, mais plus trop d'aide possible de notre famille ou des amis qui sont en France. Donc une fois qu'on est là-bas, on est un peu livré à nous-mêmes. Donc on peut se préparer avant, c'est mieux. Mmh. Et puis donc la peur de ça, et puis la peur justement, comme on en parlait juste avant, de la langue que je maîtrise moi pas forcément. Donc comment est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va comprendre? Est-ce qu'on va arriver à s'exprimer? Est-ce que du coup le stage ça va bien se passer ou pas? Il y a beaucoup de questionnements et c'est vrai que c'est
assez... Et peu de réponses avant le départ.
Peu de réponses, oui. Exactement. Et c'est pour ça que moi, j'ai ressenti ce besoin-là de mettre tous ces questionnements sur papier, parce que moi, ça m'aide.
Donc, vous aviez écrit avant de partir, déjà?
Oui.
Et puis, au fil du temps, vous avez, à chaque page...
C'est
chaque fois que vous voyez quelque chose de particulier.
C'est ça. En fait, ma démarche, voilà, à la base, c'était vraiment d'écrire mes doutes, mes ressentis et tout, avant de partir. J'en avais besoin. Et puis, plus ça allait, plus je me disais, mais en fait, j'aimerais bien poursuivre ce travail tout au long du voyage. Ça pourrait être intéressant de voir ce que j'écris au début, ce que j'écris pendant, et puis le retour après de quand je reviens, faire le parallèle entre l'avant-départ et puis le retour. Et puis, du coup, c'est quelque chose que voilà, j'ai écrit tout au long. Et puis, alors, c'était pas forcément tous les jours que j'écrivais. Il y a eu des semaines où j'écrivais pas. Parce que j'avais pas non plus envie de me forcer. Parce que je pense qu'après, ça allait se ressentir.
Mais oui, c'est ça.
Et par contre, il y a des périodes où j'étais assez productif et où j'écrivais pas mal. Et puis après, j'ai décidé de le formuler un peu comme ça, avec une anecdote par page. Parce qu'avec le temps, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien être lu, parce que peut-être que ça pourra aider, sans prétention, peut-être que ça pourra aider les étudiants qui veulent partir.
Pour se rappeler aussi.
Oui, ça peut être une expérience, un guide. Le 4 février, vous dites, 18 bien sûr, ça, c'est de belles phrases. Voyager, point. Donc, trimballer son corps et son esprit dans les bus, avions et voitures, au travers des paysages et des auberges, au cœur des ambiances et des saveurs.
Voilà, c'est ça.
C'est bien vu. Prendre le temps du plaisir ou du malheur, en somme, on se fait plaisir, comme on dit maintenant aujourd'hui. On se fait plaisir.
C'est bien, voilà.
C'est ça. Alors, prendre du temps, prendre le temps du plaisir ou du malheur, de comparer ce qu'on connaît avec ce qu'on découvre. Il avance doucement. Oui, je suis en constante comparaison pour me permettre d'évaluer, donc voilà une évaluation, pour me permettre d'évaluer la nouveauté de ce qui se présente comme nouveau. Alors je me rends compte que le voyage, souvent à des fins de découverte, nous ramène parfois chez nous par quelques senteurs, associations d'éléments visuels ou sonores. Et je ne cache pas qu'il y a dedans quelque chose d'assurément rassurant, de profondément plaisant. Et le retour un peu au passé.
Mais c'est tous les sens sont en éveil là, parce que
un
vous parlez aussi.
Les repères,
voilà, c'est
et
ça.
Tout.
Oui.
Alors, mais en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec le voyage, c'est qu'en fait, on a vraiment plus aucune pression, on a plus à se poser des questions sur du travail qu'on doit rendre avec l'école ou des choses comme ça, et donc on est vraiment en plein éveil.
Oui, mais malgré tout, vous avez quelque chose à rendre, hein, malgré tout.
Tout à fait, mais
ça reste quelque part. Mais vous êtes quand même disponible.
Je savais dès le début que ce que j'allais rendre, c'était ça.
Ah ouais.
Et donc ce livre-là, en fait, j'ai vraiment du coup là pris le temps et eu le temps de mettre tous mes sens en éveil et de vraiment.
De profiter de tout.
Profiter en fait, vraiment, c'est ça. C'est profiter. Et ce que vous venez de lire là, c'est ce que j'évoquais un peu avec. Avec mon attachement à cette région-là, c'est qu'en fait, quand on voyage, moi, je ramenais toujours un peu ce que je découvrais avec ce que j'avais connu, parce qu'il y a forcément aussi le manque de la
Bien
France
sûr,
parfois.
Oui.
Et du coup, voilà, moi, j'étais toujours un peu en train de comparer, c'est vrai que des fois, on a des odeurs qui nous rappellent chez nous.
Oui. On traîne toujours un peu de boue sous nos chaussures.
Qu'est-ce qui vous manquait de la France à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous manquait, au propre, au figuré?
Qu'est-ce qui me manquait?
Alors, La France.
Tout bêtement. Mais c'est-à-dire
la nourriture déjà.
En revanche, en Argentine, il y avait de la bonne viande. Hein.
Extrêmement bonne.
Oui, incroyable. Mais pas que ça aussi, peut-être.
Mais...
Si, c'est bon.
Ah non, franchement, la viande que j'ai mangée là-bas, j'en mangerai jamais.
Et encore, qu'est-ce qui vous manquait?
Qu'est-ce qui me manquait, c'est déjà aussi les paysages de cette région, les paysages de la France, et puis le confort aussi. Il y a un certain confort qu'on n'avait pas forcément
là-bas.
Alors ça, c'était dû déjà au format du voyage qu'on avait, c'est-à-dire on voyageait beaucoup en bus, on faisait beaucoup d'heures de bus, dans des bus qui étaient toujours pas toujours très propres ou voilà. On passait d'une auberge à une autre. Les auberges de la même manière n'étaient pas forcément toujours très clean, très propres. Mmh. Et donc c'est vrai qu'on a un réel confort en France.
Ah bon?
Qu'on n'a pas forcément.
C'est là qu'on s'en rend compte quand on est à l'étranger.
Exactement.
On mesure. Donc
et
la critique,
après,
ensuite, elle est plus mesurée après.
Exactement. On a un regard qui est différent sur les choses après le retour.
Et oui.
Et puis après, de manière un peu plus intimiste, ce qui me manquait, c'était forcément ma famille, mes amis, ma maison.
Vous étiez seul avec vous-même, finalement.
Oui. Alors, j'ai toujours été très entouré là-bas parce que. J'ai rencontré beaucoup de personnes.
C'est ça.
Oui.
Et des gens qui voyageaient comme vous.
Pas seulement.
Pas forcément.
Parce que,
des habitants, des indigènes.
Des habitants, voilà. Des indigènes pas forcément, en tout cas des habitants. Ouais. Et par exemple, moi j'ai toujours vécu, quand j'étais là-bas, dans des grandes maisons, avec beaucoup de gens, des grandes colocations.
Ah,
ma
oui.
première maison, on était 7. La deuxième, pareil. Et donc ma maison en Argentine, on était 7. La maison au Chili aussi. Et du coup,
c'était
avec
des gens qui venaient d'où?
Alors c'était des gens qui... Soit qui voyageaient comme moi, soit qui étaient en Erasmus, donc qui étaient aussi étudiants, mais dans un autre pays, ou alors des gens des locaux en fait, mais qui vivaient qui avaient changé de vie ou des choses comme ça. Par exemple, dans ma maison au Chili, j'y vais avec un ami donc chilien, mais qui lui n'était pas du tout de Valparaiso, qui était d'une autre ville qui s'appelle La Serena.
Vous l'avez trouvé très attachant, ce Chilien.
Ouais.
Oui, oui. Ouais. Allez, donc, pouvez nous en parler, oui.
Alors lui, c'est une très belle rencontre parce qu'on a des univers très différents déjà, donc le pays est différent. Mais lui, là, il avait 27 ans, moi 21, et il avait deux filles. Il avait une histoire assez particulière parce que, bon, déjà, c'est la personne avec qui j'ai beaucoup développé de liens durant
mon séjour.
Mmh. Et en fait, il était très attachant parce qu'il m'accordait beaucoup d'attention et puis il discutait beaucoup avec moi. Et puis il y avait pas forcément j'ai jamais ressenti de blocage avec lui, le blocage de
oui vous voulez pas ni vous juger ni
non.
Voilà,
ouais. et puis c'est des gens qui ont toujours beaucoup à nous apporter parce que voilà, il avait son histoire bien particulière. Il était papa de deux filles mais qui voyait pas beaucoup à la fois. Lui, il était toujours en études.
Il faisait quoi, des études de quoi?
Il faisait des études de traducteur.
Il
travaillait beaucoup sur les langues, alors il parlait énormément de langues.
Ah oui.
Pas très bien, mais en tout cas, il avait des bases dans beaucoup, beaucoup de langues, le russe, l'anglais. Et puis, c'est quelqu'un qui était aussi très intéressé par ma culture. Et donc, il me posait tout le temps des questions sur comment
il était très ouvert, en fait,
exactement,
aux autres.
Exactement.
C'est bien, oui.
Et vous l'intéressiez peut-être comme personnage.
Je sais pas. En tout cas, on avait un intérêt mutuel.
Commun, vous aviez un intérêt commun, parce que finalement, vous aviez l'échange et vous aviez quand même... C'est presque l'amitié, quand même.
Ah, mais c'est une vraie amitié.
Ouais.
Amitiés qui sont d'autant plus fortes dans des contextes comme ça, parce que c'est un contexte où ça va très, très vite. Donc, on est là pour peu de temps, mais à la fois, du coup, les relations sont très intenses et très
sont
rapides.
Sont fortes.
Mais à la fois, on a dans un coin de la tête qu'on va probablement jamais les revoir.
Jamais se revoir, oui, c'est
donc
ça.
Donc, c'est très intense. Mmh. Mais du coup, les amitiés sont très, très fortes. Et moi, j'ai toujours en contact avec eux et on s'écrit
quand même
souvent,
encore.
Bien sûr. Ouais, on s'écrit souvent. Lui, il a pour projet, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés là-bas qui ont pour projet de venir en France. Il y en a déjà un qui est revenu à Montpellier nous voir. Et puis il y en a un autre là normalement, un Argentin qui veut aussi passer nous voir normalement trop longtemps. Ouais. Donc c'est des rencontres.
Des belles rencontres, ouais. C'est bien. Donc alors vous avez fait l'Argentine, après qu'est-ce que vous avez fait, le Pérou?
Donc alors après le Chili, c'est là où a commencé mon voyage. Donc on est monté jusqu'au nord et puis après on a pris un avion, on est allé au Pérou et là on a rejoint une autre bande d'amis. Qui était donc la bande d'amis de l'école où ma copine était. Et donc là, à partir de ce moment-là, on était 8. Et on a fait donc le Pérou, la Bolivie et le nord de l'Argentine.
Le nord de l'Argentine, d'accord.
Jusqu'à Rosario après.
Eh bien, nous voyageons, on va voyager en musique, si vous
Exactement.
Voulez.
Exactement. N'est-ce pas?
Avec
plaisir.
Qu'est-ce que vous avez à nous proposer?
Alors, la première musique, c'est un groupe argentin que j'ai découvert grâce à un photographe que j'ai rencontré en Argentine, qui s'appelle Los Hermanos Abalos.
Eh bien, alors, prenons l'avion et partons.
Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, esta chacarera del rancho señor, claro sí pues. Dentro de mi rancho colgaba un horcón, tengo un violín, es de algarrobo y también de mistol, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, y me estoy haciendo cerquitas al lado, uno mejor. Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, esta chacarera del rancho señor, claro sí pues.
Que venga la segunda.
Hecho rancho un alegro especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Música.
viento y barro, mortero y fogón.
Tengo además, y a mi negra chura que sabe matear.
¿Para qué más? ¿Para qué más?
Claro, pues, ¿para qué más?
Si alguna guaguita pudiera tener, uy, qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir. Comienzo a cantar, cuál ha de ser, esta chacarera del rancho señor, claro sí pues.
Eh bien, bonjour, nous accueillons aujourd'hui Oscar Merle, qui a fait un merveilleux périple, on va dire. Dans le mot périple, il y a le mot danger aussi. Hein.
Un peu, oui.
Pericolum spoliesi, disait-on autrefois dans les trains.
Est-ce que ça vous a rappelé sur la route de Kerouac, un peu?
Sûr.
La route de Kerouac?
Je connais pas vraiment ça.
Ah, c'est le livre de Jacques Kerouac.
Ah, d'accord.
Oui.
Voilà. Vous allez vous y plonger. Oui. Saint-Ex et Kerouac, il y a de la lecture. Et donc, nous sommes en Amérique du Sud. Et pour vous, c'était un souhait de partir, comme vous dites, à la fin de votre ouvrage, qui est remarquable, partir, partir loin et pleinement vivre.
Oui.
Voilà, il n'y a pas de point d'exclamation, ça ne fait rien. Alors vous, il fallait partir.
Partir, oui.
On part facilement. Partir loin, oui aussi, aujourd'hui c'est tout simple. Partir loin et pleinement. Alors pleinement, c'est plutôt plus moral peut-être, là, non ?
C'est moral, c'est sûr que c'est...
En profiter à 200%.
Exactement.
Voilà.
Et puis partir pleinement, c'est partir pleinement dans le sens vraiment se mettre entre guillemets en danger.
Ah oui.
Et puis partir pour une expérience qu'on vraiment totalement inconnue. Pour moi, c'est ça, partir pleinement, partir pour quelque chose qui nous est totalement inconnu et qu'on va découvrir de A à Z.
C'est bien, c'est ce que vous avez révélé en fait. Là.
Tout en étant conscient des risques.
Oui. Bien sûr.
Puis donc, c'est vivre.
Oui. Pour moi, c'est les meilleurs moments de la vie. C'est des moments qui sont éphémères, mais qui sont super, très, très intenses, en fait. Donc,
vous y pensez souvent, Montpellier, à votre voyage?
Oui, beaucoup.
Ça vous manque pas de repartir?
Pas
dans les médias.
J'ai des formes de coups de blues ou aussi beaucoup de pensées, mais surtout aux gens en fait que j'ai rencontrés là-bas. Mm-hmm. Après, c'est vrai que Valparaiso, c'est une ville qui me manque beaucoup. J'y pense aussi souvent. Ouais. Alors quand je vois des photos, c'est drôle parce que j'ai des amis que je vois plus trop, mais du lycée et des fois sur les réseaux sociaux, je vois que eux sont actuellement là-bas, qui mettent des photos et ça me rappelle beaucoup de choses. Mm-hmm. Et puis après, sur les réseaux, moi je suis toujours ami avec les gens de là-bas. Mmh. Et donc je vois les photos qu'ils mettent, et ça me rappelle, ça remonte souvent. Et puis même, je retombe sur mes photos aussi.
Vous avez rencontré, mais ça c'était
En Argentine. C'était à Rosario. Ouais, parce que justement, c'est l'avantage de cette année, c'est aussi pour ça que je l'ai prise, c'est qu'on était vraiment libre de se diriger vers où on souhaitait. Mmh. Et moi, je voulais passer un mois ou deux à suivre un photographe, parce que c'est un... quelque chose aussi qui me plaît beaucoup, la photo. Et du coup, à Rosario, en fait, j'ai travaillé dans une agence, entre guillemets, un peu plus terre-à-terre, enfin une vraie agence d'architecture, en fait, en Argentine. Et donc, j'en ai parlé à l'architecte avec qui je travaillais, que je voulais rencontrer un photographe. Et puis, du coup, il m'a mis en contact avec le photographe qui photographiait ses projets à lui. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et en fait, on s'est super bien entendu. Mmh. Moi, je me suis super bien entendu avec lui. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Donc après, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il m'a donné quelques cours de technique de photographie. Il m'a emmené dans la campagne, dans la Pampa, comme il l'appelle.
Parce que
la campagne argentine. On a roulé.
C'est incroyable. Il y a des étendues énormes là-bas.
C'est impressionnant.
Moi,
c'est ce que... Enfin, moi, j'avais jamais vu un horizon de terre, quoi.
L'horizon, je le connaissais toujours de la mer, mais les
étendues comme ça, je n'avais jamais vu.
À perte de vue.
Et c'est à perte de vue et c'est sur des centaines de kilomètres. C'est impressionnant. Mmh. Et lui, c'est là où ça lui plaisait, en fait. C'est des endroits comme ça qui lui plaisait de photographier.
Le problème, c'est parce que c'était désert, parce que c'est ça, non ?
Parce que déjà, lui, c'est un homme de la campagne. Il a toujours vécu à la campagne.
Ah,
exactement.
Ouais.
Et donc, il est très attaché à sa région. Et surtout, alors lui, il partait du principe que c'était compliqué de photographier l'identité des villes en Argentine, et particulièrement de Rosario, où il habitait, parce que c'est des villes très jeunes, Et du coup, pour lui, c'est des villes qui ont peu d'histoire, beaucoup moins que les villes européennes, par exemple. Et du coup, quand lui, il voulait dresser un portrait de sa région. Il ne se tournait pas vers la ville, mais il se tournait vers le paysage qui, pour lui, avait beaucoup plus de choses à dire que la ville.
C'était une authenticité. Pour lui, c'était ça.
C'est ça. Ah ouais. Après, voilà, il travaille beaucoup sur la lumière, sur des grandes profondeurs de champ.
Les photos doivent être sublimes.
Elles sont incroyables, ouais. Vraiment. Et puis après, voilà, à côté de ça, il faisait aussi des photos de projets d'architecture.
D'accord.
Mais voilà, lui, ce qui l'animait un peu plus, c'était les photos vraiment de sa campagne et d'en parler, quoi. Et là où nous, quand on débarque, on voit durant des heures des étendues qui se ressemblent et qui n'ont aucune différence les unes avec les autres, lui, il y voit des multiples différences, en fait.
Ah oui.
Il y voit une diversité multiple et c'est parce qu'il regarde beaucoup son environnement et c'est vraiment voilà, un environnement qui lui plaît beaucoup, quoi.
Vous avez beaucoup appris avec lui.
Ouais, beaucoup. Mais déjà, techniquement, sur la photo, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Moi, j'avais jamais pris de cours de photo. Il m'a beaucoup aidé. On en a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'on avait rendez-vous toutes les semaines en fait. Et du coup, il m'apprenait beaucoup sur la technique. On sortait prendre des photos ensemble. Et puis après, il y avait des moments plus dans le dialogue où on parlait de choses très diverses.
Ouais.
Il m'a invité chez lui. Il avait un atelier de photo. Il développait toutes ses photos argentiques. Et du coup, il m'a invité chez lui. Il m'a montré un peu comment le procédé fonctionnait. Et puis il y a eu aussi des fois où on prenait du temps pour prendre des photos tous les deux, justement dans la campagne. Il m'emmenait sur les lieux où il aimait passer du temps et voilà.
Et vous apprendre un peu son œil.
Exactement.
C'est ça. Ouais,
appris à regarder et surtout à comment bien représenter ce qu'on regarde, surtout.
C'est...
Avec la bonne lumière, le bon angle, le bon cadre. Comment sélectionner ce qu'on veut prendre en photo. Pour que ce qui est important ressorte bien, enfin plein de choses comme ça, quoi.
C'est bien, ça vous a beaucoup apporté.
Oui, beaucoup.
Faire du cheval sur une plage à l'ambiance bretonne, brume ambiante et cheveux au vent, ce n'est pas réservé qu'au film. D'ailleurs, il ne me semble pas avoir vu sur grand écran des acteurs malmenés par leurs amis à quatre pattes. Entre arrêts brutaux, galop spontané et bruits buccaux suspects, la sortie est plutôt divertissante, à réitérer. Vous êtes sur la plage, là, à l'ambiance bretonne.
Ouais.
C'est-à-dire, la mer était un peu démontée, du vent.
Vous galopiez sur la plage ?
Oui, on galopait sur la plage, en fait. On avait fait une espèce de sortie.
Ça, c'est agréable.
Il y avait une brume un peu mystique, comme ça. C'était assez... Ouais. C'est assez déroutant. Alors moi, j'avais jamais fait de cheval de ma vie, donc j'étais pas forcément très à l'aise, mais c'était rigolo.
On finit par s'y faire.
Oui, tout à fait.
La fatigue de fin de voyage se fait de plus en plus ressentir. La voiture de location trimballe nos deux corps, vous étiez votre ami, nos deux corps lourds de souvenirs et de pensées.
C'est joli cette phrase.
Oui, alors on la reprend pour Gisèle. Elle a raison. Alors, la voiture de location trimballe. Elle trimballe. C'est-à-dire, elle porte, mais avec peine.
Avec difficulté.
Elle souffre.
C'est ça, oui.
Vous êtes deux géants, c'est ça.
C'est pas elle qui souffre, c'est plus nous qui sommes pas forcément...
Oui.
C'est la fatigue du voyage,
c'est ça.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Donc
on est un peu déphasé, là.
Nos deux corps lourds de souvenirs, bien sûr, et de pensées. Ce sont de belles pensées. Ou des pensées
très belles.
Très belles pensées.
Ça, c'était pendant la période où mes parents sont venus me voir.
Oui, 27 février 2018.
C'est ça. Mes parents sont venus me voir pendant 2 semaines à cette période-là.
Oui.
Et du coup, j'étais donc avec mes deux parents et mon ami, ma copine.
Oui.
Et c'est vrai que nous, il y avait aussi cette chose-là où on sortait déjà d'un mois et demi de voyage quand mes parents m'ont rejoint. Et c'est vrai que les deux dernières semaines de voyage avec eux, on commençait à accuser le coup, mais à la fois, c'était aussi... On retrouvait un certain confort avec eux parce qu'on avait une voiture location, ce qu'on n'avait pas du tout,
jusqu'à
présent. Donc c'est vrai qu'au moment où ils sont arrivés, là, on a pu se reposer un peu et souffler.
Et alors, c'est au moment où on commence à se reposer, c'est là que la fatigue se fait le plus.
C'est là que la fatigue se fait le plus et c'est là aussi qu'on regarde un peu derrière et qu'on se dit, ok, on a fait déjà tout ça.
Est-ce que ce voyage vous a fait mesurer l'importance de l'écriture ?
Oui, Bah après moi j'ai toujours
vous avez toujours eu envie d'écrire.
J'aime bien donc, écrire depuis
vous aviez
depuis
envie
petit.
Mais là vous l'avez fait.
Là je l'ai fait, ouais. Et je suis d'ailleurs assez fier de moi parce que je pensais pas aller jusqu'au bout.
Oui. C'est une discipline.
Parce que c'est comme un travail de longue haleine parce que il y a eu des moments dans l'année où j'avais pas forcément envie d'écrire et donc je me disais bon bah peut-être que je finirai jamais ce projet que tant pis j'aurais déjà écrit quelque chose. Mmh. Puis au final si je suis allé jusqu'au bout et je suis assez content et c'est vrai que déjà ça m'a fait un peu évoluer dans mes styles d'écriture, tout ça. C'est la première fois que j'essayais vraiment de travailler un style d'écriture, que j'essayais par exemple d'être efficace dans ce que j'écrivais ou choisir les bons mots. Et donc ça m'a pas mal appris là-dessus.
Mmh. Vous avez le vocabulaire d'ailleurs.
C'est ça, voilà, oui, oui. Ouais. C'est important ça.
Vous devez écrire assez aisément.
Facilement, oui.
Eh bien ça dépend, il y a des fois où j'ai vraiment beaucoup de mal à écrire et puis il y a des fois où les mots viennent tout seuls. Ouais. Mais souvent j'écrivais les grandes lignes et puis après vraiment les mots choisis, les phrases bien découpées, tout ça, je revenais en
plus
fait
tard,
dessus.
Oui.
Exactement.
Mmh.
Ouais.
Il y a des auteurs français ou étrangers qui vous ont inspiré, aidé. Vous avez des auteurs favoris, des auteurs ou des auteurs au féminin.
Il y en a un que j'aime bien en particulier. J'en ai pas forcément d'autres, mais il y en a un que j'aime bien en particulier, c'est Georges Perec.
Ah oui, oui, oui.
Oui.
Il avait écrit un livre qui s'appelle Espèce d'espace.
Oui, c'est ça.
Et c'est un livre qui m'a beaucoup parlé parce que c'est un livre où il écrit par phrase saccadée parfois. Il est très, très concis, très succinct et très efficace dans les phrases.
On retrouve parfois.
Et c'est, oui, un, c'est un style d'écriture que j'aime bien, ouais.
Mmh. Un verbe, par exemple.
Un verbe.
Oui, c'est
deux
ça.
Mots.
Voilà. Ah,
c'est
oui.
Ça. Et je trouve que ça rythme bien le récit. Et ça rentrait un peu en écho avec justement la mise en page de ce livre où il y a des petits paragraphes très succincts, un par page, et puis on peut lire ça un peu comme on.
Parce que Perec, c'est les lieux, c'est haché. Hein.
Oui, très haché. C'est un peu comme ça, je pense, qu'il m'a inspiré inconsciemment. Parce que ce livre, je l'ai lu juste avant de partir.
Ah oui.
Et je pense qu'inconsciemment, il a beaucoup joué là-dessus. Ouais. Et puis après, cette mise en page était aussi pour permettre au lecteur de lire ce qu'il avait envie de lire,
ça,
et puis pas sans forcément qu'il ait tout à lire pour tout comprendre, mais qu'il puisse sélectionner des bribes, des petits passages comme ça.
Et puis on peut y revenir.
Exactement. Ouais.
Parce que voilà, c'est ce que disait Patrick tout à l'heure, on peut relire certains passages et prendre plaisir.
Ouais.
C'est vous sur la proue du navire? Face au soleil.
Ouais, c'est peut-être une représentation de moi. Ouais. Ouais.
Avec la valise ou le sac?
C'est le sac. C'est une falaise plus qu'un navire, mais
oui.
En tout cas, on peut y voir ce qu'on a envie de voir.
Ouais. Oui. Ouais. Vous êtes au bord.
On est au bord.
D'où le vertige.
D'où
le vertige et d'où le fait de se jeter un peu dans le vide.
Le soleil qui vous éblouit.
Voilà.
Oui.
C'est ça. Un espèce d'horizon, mais qu'on connaît pas trop.
C'est un peu la part de l'inconnu.
C'est ça. Voilà.
Qui vous attire?
Oui. Qui sait, c'est vrai que c'est attirant, oui, c'est sûr. C'est attirant parce que c'est un inconnu, mais c'est un inconnu qu'on sait qu'il n'y aura rien de négatif là-dedans, au final. On sait très bien que, au fond de moi, je savais très bien qu'avant de partir, que ça allait bien se passer et que ça allait beaucoup m'apprendre.
Il
vaut
mieux partir avec cette idée-là parce que.
C'est sûr que si.
Oui, on ne sait jamais, c'est vaut mieux, des fois.
Oui, oui, oui.
Parce que le sac est lourd quand même.
Non, et puis c'est sûr, et puis on est aussi dans une époque où ça se fait de plus en plus de partir.
Oui, c'est vrai.
Donc moi j'ai aussi beaucoup de témoignages d'amis ou même de mon frère qui est déjà parti et qui a déjà vécu des expériences
aussi
similaires.
En Amérique du Sud?
Non, non, non.
Ah, non.
Il était parti au Canada.
D'accord.
Et en Angleterre. Et du coup, c'est des choses jamais aussi longtemps, mais c'est des témoignages qui rassurent un peu. Donc on n'est jamais tout seul.
Vous souscrivez donc au dicton « Les voyages forment
la jeunesse ».
Oui. Oui. Je suis en plein dedans, je crois.
C'est bien.
Je suis en plein dedans.
Est-ce qu'ils forment plus que les livres ou moins? Ou c'est une complémentarité?
Ah, c'est un complément.
Une complémentarité.
Ouais, moi, je pense que, oui, je
il y
pense
a les
que
deux.
C'est complémentaire, oui. Mmh. Je pense que ça... Ouais, non, il faut un peu d'aide.
C'est bien.
Et petit, vous pensiez déjà partir? Je veux dire, quand vous étiez à l'école primaire ou au collège? Les grands espaces qui vous attiraient, voir autre chose.
Mais en fait, pas forcément. Moi, c'est mes parents beaucoup,
vous étiez
qui m'ont
resté
beaucoup poussé à
coller à la terre de Dombes.
Parce qu'avec vos parents, vous voyagez.
En fait,
avec vos parents, vous voyagez.
Ouais, on a eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents, très jeunes. Donc
vous êtes habitués, voilà.
Donc on a toujours habitués, puis ils nous ont vraiment donné ce goût
de la curiosité aussi, de la curiosité, parce qu'il faut pouvoir pouvoir être capable de s'ouvrir aux autres.
L'innovation.
C'est ça. Hein.
Et c'est vrai que moi, ce n'était pas forcément naturel parce que on est des gens qui. Moi, je suis très attaché à voilà, comme je l'ai dit, à la région et tout. Oui. Donc, je n'avais pas forcément envie de partir. Enfin, je n'avais jamais eu, en tout cas, dans l'idée de partir de cette manière-là. Et ma mère, même depuis que je suis tout petit, elle nous a toujours poussé à le faire. Et nous, on était un peu réticents au début avec mon frère. Parce qu'elle, en fait, elle est partie un an aussi aux États-Unis quand elle était plus jeune. Mmh. Et du coup, c'est quelque chose que nos parents ont toujours poussé à faire. Donc,
elle avait raison, parce qu'à l'époque, vous étiez peut-être plus jeune, donc vous n'envisagiez pas de...
Pas du tout.
On était
plus jeunes, plus attachés. Oui. Enfin, attachés, nous, ah bah, nos vies, c'était nos copains.
Bah, oui.
Et voilà, donc...
On va pas quitter les potes.
Non, c'est pas possible.
Oui, c'est ça.
Mais après, c'est vrai que ça a quand même mûri au fur et à mesure. Mmh, et puis voilà.
Vous avez retrouvé vos potes.
Exactement. Ça bouge pas.
C'est bien.
Et Montpellier.
Vous avez repris les cours quand ?
J'ai repris les cours en septembre. D'accord. Septembre dernier. Voilà. Donc je suis parti donc de fin septembre 2017 à fin non mi septembre 2017 à fin juin 2018. Et après j'ai eu mon été et j'ai repris les cours en septembre.
Et là maintenant vous en êtes où ? Mais au 1er mai.
Alors là,
les examens qui arrivent.
Il y a les examens qui arrivent très très bientôt là, dans 3 semaines.
C'est des partiels.
J'ai plus trop de partiels, moi.
D'accord.
Non, en licence, on en a beaucoup parce qu'on a encore des cours d'amphi. Là, j'en ai plus. Quasiment. J'ai un partiel de langue, d'espagnol d'ailleurs. Mais sinon, c'est plus des rendus de projets, des choses comme ça. Et donc là, j'en ai un gros le 20 mai. Et après, j'ai fini l'année. On finit tôt cette année, mais j'ai un stage après.
Et vous savez où vous allez ?
En stage ? Ouais, je le fais à Lyon. Ouais. Tu as répondu hier d'ailleurs.
Donc je suis assez content.
Ouais. Non, je le fais à Lyon. Ouais.
Dans quel domaine, quelle branche ?
Bah, toujours l'architecture.
L'architecture, toujours.
Ouais. Vous êtes dans un cabinet ?
Architecture urbaine, non ?
Alors oui, urbaine, mais moi, pour ce stage-là, qui est quand même un stage important, parce que c'est le dernier stage de master avant qu'on rentre dans la vie active, je cherchais une agence qui était assez tournée environnement et puis matériaux biosourcés, des choses comme ça, donc en terre, en paille, en bois. Et donc, j'ai contacté un de mes profs qui était assez spécialisé là-dessus, et puis il m'a donné un nom d'agence à Lyon, et puis voilà.
Est-ce qu'il y a des nouveautés en architecture ?
Ouais, ça bouge tout le temps, en fait. Ouais, hein. Ça bouge tout le temps, c'est très dynamique. Mais c'est du nouveau basé sur de l'ancien, exactement.
C'est ça.
Pour moi, l'essence même du débat actuel, c'est comment réutiliser des matériaux qu'on a utilisés mais qu'on n'utilise pas forcément, comme la terre, le bois, la paille, des choses comme ça. Et comment la remettre au goût du jour.
C'était très utilisé avant.
Exactement. Mmh. Et comment la remettre au goût du jour et comment rendre ces matériaux-là modernes. Donc ça bouge beaucoup dans ce sens-là en ce moment. En tout cas, il y a toute une partie de l'architecture qui bouge beaucoup là-dessus en ce moment. Oui. Et puis après, oui, c'est forcément l'architecture, ça fait partie des domaines qui sont forcément très dynamiques parce que ça bouge tout le temps, les enjeux, les envies des villes, ça bouge beaucoup, quoi. C'est aussi un peu en parallèle avec toutes les prises de conscience sur l'écologie, enfin, plein de choses comme ça.
Ouais, c'est de plus en plus sensible, l'écologie.
Exactement.
Ah, oui.
Vous êtes toujours dans les vertiges. Je ne résiste pas à lire le quatrième de couverture, Les vestiges du voyage. Vous allez nous dire si vous corrigez certaines expressions ou je pense que le fond reste tel que vous le sentiez. La peur du vide, de la hauteur, de la chute. La peur de se lancer. La peur de se diriger vers un inconnu impressionnant, aveuglant de grandeur. La déstabilisation par le nouveau, celui sur lequel il est impossible d'avoir la main mise. Puis vient la beauté vertigineuse. La peur se transforme en émerveillement, vêtu de ses plus beaux atours. L'équilibre aura été sauvé par le courage de risquer la chute, si tant est qu'il y avait possibilité de tomber. Les bâtons, qui dans l'imaginaire viennent se bloquer dans les roues, servent plutôt de soutien. Et à présent, sur le fil des funambules du voyage, que j'ai emprunté sans en avoir a priori les aptitudes requises, je marche droit.
Ouais.
Rien à rajouter, rien à corriger.
Non,
j'y reste.
Je trouve que
c'est bien.
Ça prend de l'épaisseur.
Ouais.
C'est bien.
Non, en plus, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai écrit. Ça, je l'ai écrit pendant.
Oui.
Mais en plein milieu, et c'est toujours aussi...
C'est toujours d'actualité.
C'est coulé dans le béton, maintenant, peut-on dire.
Et je trouve que ça parle assez bien de cette expérience-là.
Oui. Je trouve que cette histoire, c'est une histoire d'évasion, mais de, enfin, l'appel du départ quand même. Mais je pense aussi, c'est pour se retrouver soi-même.
Exactement.
C'est un peu ça. Oui, hein.
Un voyage d'initiation aussi, un peu peut-être.
Oui, c'est sûr. C'est que quand...
À tous les domaines, tous les degrés.
Oui, tout à fait. Quand on revient, on démarre aussi quelque chose d'autre. On démarre... on revient un peu différent, on revient grandi, donc c'est un autre démarrage, quoi. C'est un retour au départ, en fait, quand on revient de ça, un voyage comme ça.
Mais c'est un très beau livre.
Est-ce qu'il y aura un autre ouvrage plus tard, peut-être ?
Peut-être.
Est-ce que vous allez repartir ?
Ouais, sûrement, j'aimerais bien.
Vous savez où ?
Je ne sais pas quand, ni comment, ni où, mais...
D'accord.
Mais oui, non.
Alors, il y aura toujours un autre livre ?
Oui, sûrement, sûrement.
Où peut-on le trouver ?
On peut le trouver à la Maison de la Presse à Châtillon sous Chalaronne.
D'accord.
Alors, Oscar Merle, Les Vertiges du Voyage. Donc, vous dites, alors il y a 180 pages hein, quand même. Hein.
C'est des petites pages, mais
la lecture est très facile.
Ça
se lit très rapidement.
C'est écrit, c'est très bien.
Et c'est bien écrit.
Merci, donc, à la librairie de Châtillon-sous-Chalaronne.
C'est ça, la Maison de la Presse.
La Maison de la Presse.
Châtillon-sous-Chalaronne.
Les Vertiges du Voyage. Et puisque les grandes vacances ne sont pas trop loin, ben, on parle déjà du voyage.
C'est ça.
Avec ou sans vertige. Merci à Pauline qui était à la technique.
Merci
Gisèle pour le travail, la recherche et les questions. Et nous repartons pour finir en musique.
Merci beaucoup.
En musique, en vous remerciant pour votre venue.
Merci à vous.
Alors, le titre du deuxième morceau.
C'est un air péruvien.
C'est un air péruvien, oui.
Oh ben c'est bien. Alors, bon vent et bon voyage et bonne suite.
Merci
au revoir,
beaucoup,
merci.
Au revoir.
Bon vent.